France Culture.
Bonsoir à tous. Aucune minute à perdre pour les secours et les chiens cynophiles penchés sur les gravats en Birmanie et en Thaïlande, 24 heures après le passage du séisme. Le bilan s'est encore alourdi cet après-midi. 1600 personnes retrouvées mortes en Birmanie, 9 en Thaïlande. Les secouristes sont pessimistes, vous l'entendrez dans le reportage de notre envoyé spécial Valentin Dunat à Bangkok. C'est une foule immense réunie en Turquie aujourd'hui à Istanbul, 11e jour de mobilisation après l'arrêt du maire de la capitale. Libéré Ikrem Imamoglu, scandent les manifestants. Cette lettre lumineuse qui ne scintilleront plus en France. La marque de vêtements marseillaise Caporal annonce sa fermeture définitive aujourd'hui. 280 personnes licenciées. Une image qui fait le tour des médias aujourd'hui, celui d'une femme birmane de 30 ans recouverte de poussière, mais retrouvée vivante après avoir passé plus de 30 heures sous les décombres de son immeuble effondré en Birmanie. Comme elle, de nombreuses personnes sont encore coincées sous des bâtiments, notamment à Mandalay, au centre du pays birman, là où se trouvait l'épicentre du séisme. Le bilan fait état de 1600 morts. Quant aux pays voisins, difficile encore d'obtenir des chiffres précis. En Thaïlande, où le tremblement de terre a frappé la capitale Bangkok. On compte 9 morts pour l'instant. Sur place, notre envoyé spécial Valentin Dunat a suivi une équipe de secouristes qui tente de retrouver une centaine de personnes disparues après l'effondrement d'une tour en construction.
Les pelleteuses s'activent depuis plus de 24 heures au milieu de cet immense amoncellement de gravats, les restes d'un immeuble de 30 étages. Vassan, l'un des secouristes qui vient de passer 20 heures à tenter de retrouver des rescapés, m'explique qu'il connaît la position exacte des personnes mais qu'il ne peut pas pénétrer facilement. Est-ce que vous les entendez, ces personnes ? Non, pas de voix. La seule preuve de vie, c'est le rythme cardiaque capté par des drones équipés de caméras thermiques.
Est-ce que vous êtes habitué à ce type de secourisme ?
L'effondrement de bâtiments, me dit-il, c'est très rare, mais il compare ça aux accidents de la route où les automobilistes se retrouvent avec des morceaux de carrosserie qui appuient sur le corps des blessés. Là, c'est donc la même chose dans les décombres. Il faut donc agir délicatement. Au pied de ce bâtiment, juste à côté des barrières de sécurité, il y a des dizaines de personnes qui attendent des nouvelles de leurs proches. C'est le cas de cette femme qui recherche sa sœur. Elle travaillait dans l'installation électrique de ce bâtiment.
J'aimerais entendre ma sœur qui est à l'intérieur. Elle est encore en vie et elle a toujours une signe de vie.
Comment le savez-vous, ça ?
Je ne fais que prière.
Elle conclut en disant qu'elle compte bien rester ici jusqu'à ce que les secouristes retrouvent sa sœur.
Valentin Dunat à Bangkok, en Thaïlande, avec les moyens techniques de Sandrine Malon. En France, l'appel aux dons commence. Le Secours populaire interpelle dès aujourd'hui les Français pour aider les Birmans qui font face à des coupures d'électricité et des infrastructures détruites à cause du séisme, mais aussi des bombardements successifs de l'armée birmane depuis le coup d'État de 2021. Le pays est actuellement en guerre civile où s'affrontent des groupes rebelles d'opposition et la junte militaire. 11e jour de manifestation en Turquie. Et malgré les arrestations, plusieurs centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans les rues d'Istanbul. Munis de drapeaux turcs, ils dénoncent toujours l'arrestation du maire de la capitale, Ikrem İmamoğlu, mis en détention provisoire mercredi dernier. Rassemblement à l'appel du parti du maire d'Istanbul, le Parti républicain du peuple, le premier mouvement d'opposition dans le pays. Sur place, Marie-Pierre Véraud à Istanbul.
C'est un rassemblement pour demander la libération du maire d'Istanbul. On se presse devant les stands qui récoltent des signatures. Une dame appose son paraphe.
Je suis venue soutenir Ikrem İmamoğlu et tous ceux qui ont été injustement jetés en prison. Et c'est pourquoi je suis venue signer. C'est le peuple qui se lève. Et bien sûr, on veut aussi des élections anticipées. Mais ça va au-delà d'İmamoğlu. C'est une question de démocratie. C'est ça qui compte. L'arrestation d'İmamoğlu, c'était la ligne rouge à ne pas franchir.
Beaucoup brandissent des posters du maire d'Istanbul, visage souriant. Tous scandent droit, loi, justice. Ils demandent la démocratie. Les étudiants aussi sont là.
C'est terrible, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une dévastation, alors il faut se battre parce qu'on est la jeune de la nation. Il faut se battre, c'est notre responsabilité parce que c'est un système qui veut nous détruire.
Les plus remontés scandent Tayyip démission comme ce grand-père.
On est venu protester contre Tayyip pour le droit, la loi, la justice. Regarde, c'est mon petit-fils. Je suis venu pour défendre ses droits. Je n'ai pas peur. Ils peuvent venir me chercher ici pour me mettre en prison. Je n'ai pas peur. Nous allons continuer notre résistance jusqu'à la fin. Il n'y a pas de retour en arrière.
Il faut lancer depuis la tribune le chef du Parti républicain du peuple poursuivre notre marche vers le pouvoir.
Et l'opposition a revendiqué plus de 2 millions de personnes rassemblées dans la capitale. Libération finalement pour l'ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara. Il vient d'être gracié aujourd'hui par le chef de la junte, actuellement au pouvoir en Guinée-Conakry. Moussa Dadis Camara, 61 ans, avait pourtant été condamné il y a 6 mois à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Le 28 septembre 2009, sous sa présidence, 156 personnes avaient été tuées. L'opposition se dit consternée et condamne, je cite, « la manipulation la plus cynique et la politique politicienne la plus abjecte à quelques mois des élections annoncées par la junte au pouvoir ». Les patrons français inquiets depuis hier soir, après qu'une lettre de l'ambassadeur américain à Paris a été envoyée à plusieurs entreprises françaises. Une lettre qui demande à ce que sous 5 jours, elles arrêtent toute politique anti-discrimination si elles veulent continuer à travailler avec le gouvernement des États-Unis. Les Américains demandent à ne plus faire la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Une démarche inédite selon l'économiste Emmanuel Auriol de la Toulouse School of Economics, mais surtout contradictoire avec les lois européennes, notamment sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises.
Il y a eu dans l'histoire des directives faites par des gouvernements, mais enfin c'était des gouvernements comme par exemple le Troisième Reich, pour empêcher de faire du business avec certaines catégories. Bon. Mais là, on est quand même encore dans une démocratie, donc c'est vraiment étonnant cette ingérence sur la façon dont les entreprises organisent leur marché du travail interne. Et puis alors, ça va poser des problèmes insurmontables pour les entreprises européennes, puisqu'elles sont soumises à des lois européennes, pour le coup, à des directives. Donc il y a une directive européenne depuis 2022 qui s'appelle Women on Boards et qui fixe des objectifs, des quotas de femmes à mettre en place dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est pour les entreprises de grosse taille qui sont cotées sur les marchés européens. Elles ont cette obligation-là. Donc il y a une contradiction évidente entre respecter cette directive et puis pouvoir travailler avec les États-Unis.
De son côté, le ministère français du commerce extérieur a fait savoir ce soir que ces ingérences étaient inacceptables. En Corse, une figure de la bande criminelle, la Brise de Mer, a été tuée à Bastia ce matin par balle. Robert Moracini, présenté comme l'un des membres fondateurs de l'organisation criminelle, qui a sévi 30 ans sur l'île avant de disparaître au début des années 2000. Une nouvelle illustration de la crise qui frappe le prêt-à-porter français Caporal, groupe marseillais spécialisé dans le jean, vient d'être placé en liquidation judiciaire avec arrêt immédiat de l'activité. L'entreprise a défendu lors d'une audience une position de poursuite d'activité, indique la direction. 281 personnes sont licenciées. Comment expliquer cette fermeture? Explication Mariam El Kurdi.
Décontracté, branché, c'était la marque de fabrique de Caporal créée par une famille marseillaise en 2004 et dont le succès a été vif auprès des jeunes. Si sur son site internet, la marque de vêtements indique déjà une fermeture définitive et que celle-ci paraît brutale, elle résulte en fait de plusieurs années de difficultés économiques. Dès 2023, l'enseigne demande son placement en redressement judiciaire, un plan de reprise par 3 cadres et 2 années de travail s'ensuivent pour redresser la barre, selon la direction. Mais elle se prend de plein fouet la crise qui frappe tout le secteur du prêt-à-porter en France, avec de très nombreuses marques en cessation de paiement, des boutiques qui ferment, Koukaï, Esprit, Gap France, Jennifer, André, Camailleux et bien d'autres. Raison multifactorielle, la pandémie de Covid et son impact sur nos dépenses, moins 17% dans l'habillement en 2020 par rapport à l'année précédente. Ensuite, l'inflation qui pousse à réduire nos achats dits secondaires. Enfin, la concurrence de la seconde main ou encore de la mode dite éphémère au très bas prix et aux collections renouvelées fréquemment, une mode importée via les plateformes asiatiques comme Shine.
Le temps pour demain, passage à l'heure d'été. Nous perdons une heure de sommeil dans la nuit. À 2h, il sera 3h du matin. Quant à la nuit, elle est nuageuse, un peu voilée, des températures comprises entre 3 et 6 degrés. Demain matin, du soleil dans le sud et l'est de la France, un temps plus nuageux dans l'ouest et le nord. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Beneteau.